Se questionner sur les rapports entre PLU et label peut surprendre, car il s'agit de deux types d'outils qu'a priori tout oppose. Le PLU constitue un instrument juridique contraignant, alors que les labels peuvent être présentés, malgré leur diversité, comme des certifications de la qualité d'un bâtiment, d'un espace, d'une commune entière parfois. Ils n'ont à ce titre aucune valeur réglementaire et n'accordent de ce fait aucune protection aux objets qu'ils visent. Pour autant, des échanges se produisent entre un PLU ayant une ambition patrimoniale et les labels en matière de patrimoine. Le premier cas de figure est celui par lequel le PLU patrimonial prolonge la reconnaissance accordée par un label, en accordant à l'élément labellisé un certain niveau de protection juridique. Il peut en aller ainsi des jardins remarquables, ou sur un autre plan, des maisons des illustres, deux labels accordés par le ministère de la Culture. Il semble logique qu'un PLU se voulant patrimonial retienne les éléments ainsi labellisés pour, à minima, les intégrer dans l'identification des patrimoines qu'il effectue et, le cas échéant, dans leur accorder un certain niveau de protection juridique. Le choix des outils de protection, identification OL 151-19, zonage, disposition réglementaire, dépendra alors de la nature du bien. Il reste plus compliqué de réglementer un jardin remarquable qu'un bâtiment, dans la mesure où le PLU traite peu ou pas de la gestion d'une parcelle. L'ordonnancement du jardin, comme les pratiques d'entretien, n'entre pas juridiquement dans le périmètre du PLU. Il est plus simple pour la planification urbaine d'intégrer les immeubles reconnus par le ministère de la Culture comme architecture contemporaine remarquable. Ce label, reconnu par la loi LCAP, succède au label patrimoine du XXe siècle, créé en 1999, et s'adresse aux créations architecturales de moins d'un siècle, méritant par leur valeur et leur qualité, une reconnaissance par l'État. Ce label peut précéder le classement ou l'inscription en tant que monument historique, mais tant que cette étape n'est pas franchie, l'immeuble labellisé reste soumis au droit commun de l'urbanisme. La seule conséquence pour le propriétaire est l'obligation d'informer les services de l'État de son intention de réaliser des travaux avant leur réalisation, mais sans que soit requis en retour une autorisation ou un avis conforme. Afin d'assurer la protection d'une architecture remarquable, il semble donc logique que le PLU intègre cette dernière de manière stricte dans les éléments protégés du PLU, en établissant idéalement des prescriptions adaptées aux caractéristiques du bien. Mais il n'en demeure pas moins que le label décerné par l'État n'est pas juridiquement opposable à la collectivité locale, libre ou non de protéger l'immeuble. Certains labels s'adressent à des territoires en entier. Le label « Ville ou pays d'art et d'histoire » créé en 1985 et décerné par le ministère de la Culture, mais aussi des labels mis en place par des associations comme « Petite cité de caractère » ou « Plus beau village de France ». La labellisation patrimoniale d'un territoire ne peut alors induire que le PLU patrimonialise l'espace entier. Néanmoins, le label peut entraîner un cercle vertueux de renforcement de la protection juridique par le PLU, en cherchant à dépasser les périmètres de protection dédiés déjà existants. En effet, pour l'attribution de certains labels, le cahier des charges, imposé par l'association, exige la présence d'au moins un outil juridique patrimonial sectoriel, tel un site classé, un périmètre de monument historique, ou bien entendu un site patrimonial remarquable. Un simple PLU patrimonial ne suffit pas à remplir ce critère. Néanmoins, il peut servir à compléter utilement, par exemple, un périmètre monument historique, soit en donnant à l'espace inclus dans ce périmètre une réglementation patrimoniale, soit en dépassant les limites de ce dernier. Les associations n'acceptent donc pas, pour le moment, qu'un PLU patrimonial, même particulièrement musclé sur le sujet, suffise à l'attribution d'un label qu'elles délivrent. La réversibilité de l'outil, comme l'absence d'intervention de l'architecte des bâtiments de France dans les zones seulement couvertes par un PLU, fragilise à leurs yeux cet outil réglementaire. Pour répondre en partie à ces craintes, il faudrait très certainement mettre en place un nouveau label, celui de PLU patrimonial, doté d'un cahier des charges et d'une batterie de critères permettant d'attester de la réelle patrimonialité du document d'urbanisme, y compris sur le long terme.